VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 février 2021. Bonjour, bienvenue. Washington a rassuré mercredi ses alliés européens sur la volonté du président Joe Biden de mettre un terme aux décisions unilatérales lors de la première réunion ministérielle organisée par l'OTAN. Contraint de rester à Washington par la pandémie de coronavirus, le nouveau patron du Pentagone, Lloyd Austin, s'est adressé à ses 29 homologues par vidéoconférence. Sa première réunion avec ses homologues se tient sur 2 jours et les discussions mercredi ont porté essentiellement sur la préparation du prochain sommet de l'Alliance. Aucune date n'est encore fixée, mais il devrait se tenir vers la fin du mois de juin une réunion des ministres des Affaires étrangères avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est prévue les 23 et 24 mars. Le président américain Joe Biden a exprimé mercredi au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou son intention de renforcer la coopération en matière de défense entre les États-Unis et Israël et il a réaffirmé son engagement inébranlable envers la sécurité de l'État hébreu, a rapporté la Maison-Blanche. Au cours de ce qui constituait le premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants depuis l'investiture de Joe Biden le 20 janvier, le président américain a aussi souligné le soutien des États-Unis à la récente normalisation des relations entre Israël et des pays du monde arabe et musulman, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. Des Libyens ont célébré mercredi le 10e anniversaire du début de la révolution ayant renversé le régime de Muammar Kadhafi en 2011, avec l'espoir que la récente relance du dialogue politique mette un terme aux divisions et aux violences. Signe que la situation sécuritaire est toujours précaire dans le pays, la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, a condamné mercredi une attaque ayant tué un enfant et blessé 29 autres personnes la veille à Seba, dans la région méridionale de Fezzan, et réclamé une enquête. Des pourparlers interlibyens ont débouché ces dernières semaines sur un accord pour des élections en décembre. Un exécutif de transition composé du premier ministre par intérim Abdel Hamid Beba et d'un conseil présidentiel transitoire a été élu le 5 février. Le Soudan a rappelé mercredi son ambassadeur en Éthiopie au moment où les tensions montent à la frontière entre les deux pays, a indiqué un porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères. La décision de Khartoum intervient au milieu de tensions croissantes entre les deux pays voisins d'Afrique de l'Est au sujet de la région frontalière d'El Fachaga, où des cultivateurs éthiopiens ont occupé des terres revendiquées par le Soudan. Le Soudan et l'Éthiopie se disputent cette région frontalière de quelque 250 km² de terres agricoles fertiles et convoitées par les agriculteurs de deux pays d'Afrique de l'Est. Au moins 35 personnes ont été tuées au Tchad, dont un militaire, dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du pays, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés, a indiqué mercredi à l'AFP le secrétaire général de la province. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes et cultivateurs autonomes, sédentaires, qui accusent les premiers notamment de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. La campagne de vaccination contre le coronavirus initialement reportée a commencé mercredi en Afrique du Sud, qui est ainsi devenu le premier pays au monde à utiliser les doses du laboratoire Johnson & Johnson, livrées en toute discrétion tard dans la soirée à l'aéroport de Johannesburg. Les précieux vaccins qui s'administrent en doses uniques ont été transférés dans un local sécurisé avant d'être distribués dans 32 centres de vaccination à travers le pays. La première dose du lot de 80 000 vaccins reçus la veille a été administrée devant les caméras à une infirmière en maternité de l'hôpital de Khayelitsha, important township du Cap. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa y a été vacciné dans la foulée. Les premières vaccinations sont destinées aux 1,2 million de personnes de personnel de la santé. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal présidentiel au Congo, 7 candidatures validées, un opposant récalé. Nouveau rapt d'élèves au Nigeria, le président Muhammadu Buhari ordonne une opération de sauvetage. Une légende de la radio est décédée ici aux États-Unis, Rush Limbaugh. Il était un porte-voix des conservateurs. Jean-Roger Billon à ce micro. On revient donc dans un instant pour la suite du journal Nous émettons de Washington. La suite de nos informations ce jeudi 18 février 2021. Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a rejeté la candidature de Michel Mbusi Ngouari, l'une des 8 personnalités qui s'était portée candidate à l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Désormais, ce sont 7 candidats, dont le président Denis Sassou Nguesso, qui totalise 37 ans de pouvoir, qui reste en lice. Le point avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Michel Mbusi Ngouari, à la tête d'une petite formation politique de l'opposition, le MNLC, ne sera pas candidat à la présidentielle de mars prochain. Sa candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle pour défaut de pièces. La Cour a estimé que son certificat médical et son certificat de moralité fiscale n'étaient pas conformes. Plusieurs autres failles ont par ailleurs été décelées dans les spécimens de signature fournis par l'opposant. Ancien chef rebelle dans la Bouenza lors de la guerre civile de 1998 et 1999, Michel Mbusi Ngouari est élu député en 2017 dans la circonscription de Muyonzi. Il n'a pas une grande envergure politique dans le pays, mais Mbusi Ngouari a déjà été candidat en 2016 où il n'a récolté que 0,24% de suffrages exprimés. 7 candidats sont désormais en lice. Il s'agit de Albert Onyangé, Angios Nganga Engambe, Dave Mafula, Denis Sassou Nguesso, Guy Brice Parfait-Kolela, Joseph Kinyumi-Kiambungu et Mathias Nzon qui auront tous versé une caution de 25 millions de francs CFA au trésor public. La campagne en vue de cette élection présidentielle devrait officiellement démarrer le 6 mars prochain. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a ordonné mercredi une opération pour sauver au moins 42 victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé. Le gouverneur de l'État du Niger, où a eu lieu l'enlèvement, a ordonné la fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre de plusieurs écoles. Les détails avec Muhammadu Mfa.
Dans la nuit de mardi à mercredi vers 2h du matin, heure locale, des hommes armés ont attaqué le collège lycée de Gagara, pensionnat situé dans l'État du Niger. Ils ont enlevé au moins 42 personnes, dont 27 élèves. Le bilan reste confus. Les autorités locales n'ont pas communiqué sur le nombre exact de personnes enlevées. Plus tôt dans la matinée d'hier, une source sécuritaire et un responsable local avaient affirmé que des centaines d'élèves avaient été enlevés. Le président Muhammadu Buhari a ordonné aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes. Des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et des otages. Le gouverneur de l'État du Niger, Aboubakar Sani Bello, a ordonné la fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre des pensionnats dans 4 districts. Le porte-parole de l'ONU a condamné un acte odieux et demandé la libération immédiate des personnes enlevées. L'ONG Amnesty International a rappelé que les attaques contre les écoles et les enlèvements d'enfants sont des crimes de guerre dont les responsables doivent être traduits en justice.
Ici aux États-Unis, le célèbre animateur de radio Rush Limbaugh, figure de la droite conservatrice pendant plus de 4 décennies, est décédé hier à 70 ans. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Rush Hudson Limbaugh III sera pour toujours le plus grand brillant et un pionnier de la radio, a déclaré sa femme Catherine. L'animateur a révélé en février 2020 être atteint d'un cancer avancé du poumon. Lors de son émission de radio, souvent présentée comme le talk show le plus écouté aux États-Unis, son influence était telle qu'il a été qualifié de chef du Parti républicain par les démocrates. Il m'a soutenu dès le début, c'était un grand gentleman, a réagi l'ancien président Donald Trump, ajoutant « c'était un gars unique, il avait une perspicacité extraordinaire ». Né en 1951 dans le Missouri, Rush Limbaugh commence sa carrière à la radio en 1971. En 1984, il est embauché par une station de Sacramento en Californie. Son émission la plus emblématique, The Rush Limbaugh Show, débute en 1988 et devient l'une des émissions les plus populaires à la radio américaine. Ce programme quotidien de 3 heures était écouté en moyenne par plus de 15 millions d'auditeurs en 2020. Il a reçu des mains de Donald Trump la médaille présidentielle de la liberté, l'honneur civil le plus important qui puisse être accordé aux États-Unis.
C'est à présent l'heure de la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
Le Fonds régional du financement de l'éducation en Afrique a consenti un prêt de 3 millions de dollars à Fidelis Finance, une institution financière pour soutenir des structures d'éducation en Afrique de l'Ouest. Fidélis envisage de financer des instituts d'enseignement privé au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Le japonais Takuma Terakubo a lancé un fonds d'investissement doté de 15 millions de dollars pour financer des entreprises technologiques africaines en phase de démarrage. Cette initiative permettra d'injecter entre 50 000 et 500 000 dollars avec une préférence pour des startups du Nigeria, du Kenya et d'Afrique du Sud. Le Boeing 737 MAX a effectué son premier vol commercial en Europe mercredi sous les couleurs de la compagnie belge TUI Fly après avoir été cloué au sol pendant 22 mois après deux accidents mortels. Les vols commerciaux de 737 MAX ont repris le 9 décembre avec la compagnie brésilienne Gol et depuis aux États-Unis et au Canada. 723 appareils ont été commandés par 14 clients européens, aucun français, dont 210 restant à livrer à Ryanair, 92 à Norwegian Air Shuttle et 63 à Turkish Airlines.
Et maintenant, la page des sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le Cameroun est presque en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Après sa deuxième victoire 1-0 face à l'Ouganda, battu en ouverture, le pays hôte, la Mauritanie s'est relancée en disposant du Mozambique 2-0. Le groupe B fait sa deuxième sortie ce soir. La Tunisie fait face à la Namibie et le Burkina Faso, la République centrafricaine. En Europe, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Porto a battu 2-1 la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Le Malien Moussa Marega de Porto a inscrit le second but des Portugais. Dans l'autre huitième de finale aller, l'incontournable Erling Haaland a porté le Borussia Dortmund d'un doublé clinique à Séville. Score final 3-2 pour les Allemands. En Europa League, les 16e de finale aller se disputent ce soir. Manchester United défie la Real Sociedad à Turin en Italie. Une affiche délocalisée en raison des restrictions sanitaires, de même que Benfica Arsenal, reprogrammée à Rome. Du côté des deux autres clubs anglais en lice, Tottenham se déplace à Budapest en Hongrie pour affronter le club autrichien de Wolfsburg, alors que Leicester se rend à Prague pour y défier le Slavia. Dans un duel entre anciens vainqueurs de la Ligue des Champions, l'AC Milan voyage en Serbie pour rencontrer l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk iront en Israël défier le Maccabi Tel Aviv. L'AS Rome, qui n'a jamais remporté de Coupe d'Europe, sera méfiante avant son match chez le Sporting Braga, tout comme Naples qui ira défier Grenade. Enfin, Lille reçoit l'Ajax Amsterdam, finaliste de l'édition 2017. Tennis, les demi-finales de l'Open d'Australie se jouent aujourd'hui. À suivre chez les dames, le choc entre la japonaise Naomi Osaka, 23 ans, troisième mondiale, lauréate du dernier US Open et vainqueur à Melbourne en 2019, et l'américaine Serena Williams, 11e mondiale en quête à 39 ans, d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court. La seconde demi-finale dame mettra aux prises la tchèque Karolina Muchova et l'américaine Jennifer Brady. Chez les messieurs, le numéro 1 mondial serbe Novak Djokovic fera face au russe Aslan Karatsev. Demain, le grec Stefanos Tsitsipas, qui a réussi un exploit en remontant un handicap de 2-7 face à Rafael Nadal, affrontera Daniil Medvedev, qui a fait craquer physiquement son compatriote Andrei Rublev.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, s'est ouvert hier à Kigali. L'ancien hôtelier a contesté le droit du tribunal à le juger en raison de sa nationalité belge. Il est accusé, entre autres, de terrorisme. Une vingtaine d'enseignants a par ailleurs signé une pétition dans laquelle ils défendent son arrestation au Rwanda. Eric Manirakiza a joint en Pennsylvanie l'un des signataires du document, le professeur Jean-Pierre Karegeye.
Que Rusesabagina lui-même a reconnu être responsable, que son mouvement armé était responsable des tueries et des gens et au Rwanda. Donc ça, c'est un fait. Et je crois que c'est très important que ce procès se fasse au Rwanda. Ce sera faire justice aux victimes. Et je crois que c'est très important. Et aussi pour le Rwanda, donc, qui a connu ce génocide en compte des Tutsis en 1994. Donc, quoi, le Rwanda a le droit de pouvoir protéger ses citoyens.
Sa défense parle d'un enlèvement. Human Rights Watch parle de disparition forcée.
Ça fait un peu rire quand on dit ça. Je crois il y a deux articles au moins qui ont été publiés un jour avant, donc hier exactement. Et donc, deux articles de Jeune Afrique et puis Libération qui détaillent comment est-ce que Rusesabagina s'est retrouvé au Rwanda. C'est vrai, il y avait une complicité d'un pasteur qui était son ami, mais à un moment, qui ne pouvait pas supporter et accepter que d'être impliqué dans un groupe armé et qui trouvait cela était excessivement dangereux pour le Rwanda et pour la région. Et donc, il n'y a pas eu d'enlèvement. Rusesabagina était en mission. Il voulait aller au Burundi et certainement pour passer en revue ses troupes et il s'est retrouvé au Rwanda. Et ça vient surtout, c'est au niveau de l'Occident, on parlait d'enlèvement. Il faudra voir aussi ce qui s'est passé ailleurs pour saisir évidemment le sens d'enlèvement. Et dans beaucoup de cas, donc je crois que le Rwanda a le droit de pouvoir défendre sa population contre les terroristes et contre ces groupes armés. Parce qu'il y a beaucoup de cas qu'on connaît en Occident et qui sont dans des situations où on peut vraiment parler d'enlèvement, mais ça paraît normal ailleurs. Personne ne l'a pris de force à partir de Dubaï là où il était, mais il a pris de bon gré cet avion. La seule différence, c'est que lui se rendait au Burundi et pour quelle mission? Pour passer ses troupes en revue.
Il dit qu'il est belge, donc que le Rwanda ne peut pas le juger.
Si Rusesabagina était congolais, je comprendrais, parce que dans la constitution congolaise, la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais cela est totalement différent avec le Rwanda. Donc le Rwanda admet le principe de double nationalité. Est-ce qu'il avait renoncé à sa nationalité rwandaise? Oui, il y a un article donc, qui le permet, qui donne la possibilité à un Rwandais de renoncer à sa nationalité. Ça se fait officiellement. Ça se fait enregistrer au bureau de l'État civil, etc. Et il n'a jamais fait ces démarches. Alors donc là, c'est clair, il est Rwandais, il est belge. Et je crois que pour lui, être Rwandais, ça lui donne même des droits. Et par contre, supposons même qu'il ne soit plus Rwandais. Et dans ce cas-là, le Rwanda aurait les droits de juger des citoyens étrangers aussi, donc qui constituent un danger pour ses citoyens. Donc cela se ferait aussi. Donc, être belge, être rwandais, ça importe peu, me semble-t-il.
Le professeur Jean-Pierre Karegeye, joint en Pennsylvanie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur le sommet du G5 Sahel qui s'est achevé mardi à N'Djamena, à Ouagadougou, au Burkina Faso. De nombreux citoyens et experts donnent leur avis sur la tenue de ce sommet et la lutte contre le terrorisme dans la région. Les précisions de Lamine Traoré, notre correspondant au Burkina Faso.
Dans les rues de la capitale burkinabé, au lendemain du sommet de N'Djamena, les populations se prononcent sur le sommet.
Le sommet du G5 Sahel, là, c'est fait seulement pour que les États africains là, se rencontrent seulement pour bavarder. Sinon, l'Afrique déjà maîtrise son terrorisme. C'est le même terrorisme que les Européens connaissent. C'est mieux d'exclure la France même des aides pour combattre notre terrorisme.
La France veut nous aider à lutter contre les terroristes. Ça, c'est normal. Celui qui dit que c'est faux, je ne suis pas d'accord.
Les gens ne veulent pas rentrer en profondeur pour pour stopper cette manœuvre qui se fait, qui enrichit plusieurs pays. Parce que quand ces sommets se tiennent, ce sont des milliards qui se convoquent comme budget pour tenir ces sommets. Donc, en quelque sorte, ça profite à certains.
Je ne sais pas si vraiment cette fois-ci, ça sera la bonne aide ou bien c'est la bonne concrétisation.
Pasien est analyste politique et juriste.
Qu'est-ce que les chefs d'État africains ne savent pas et qu'ils pourraient apprendre à nouveau? Qu'est-ce qu'il faudrait se dire avec l'Occident qui n'ait jamais été dit? Je pense que l'heure est dans l'action. Il est vrai que la France intervient depuis quelque temps aux côtés, dit-on, des pays du G5 Sahel. Les premiers responsables de la sécurité des Africains sont les Africains eux-mêmes. Donc il revient aux dirigeants déjà de prendre les responsabilités pour défendre. Je pense que l'Afrique a suffisamment de capacités pour se prendre en charge. Il y aura certainement des difficultés, mais nous savons que c'est dans la difficulté que nous apprenons. Ce n'est certainement pas le moment de refuser l'aide. L'aide, comme l'a dit le président Thomas Sankara, nous aurons besoin de l'aide qui nous permet de nous passer de l'aide.
Au-delà des sommets de la lutte armée contre le terrorisme, il faudra penser aux actions de développement pour endiguer le phénomène. Wassim Nasr est journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel et des réseaux djihadistes.
Il est clair que la réponse militaire ou sécuritaire seule est loin d'être suffisante, parce qu'on voit que la situation ne cesse d'aggraver, et surtout pour les populations civiles, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger dernièrement. Les réponses doivent être plutôt aussi au niveau de l'administration, au niveau de la justice, et que le retour des États respectifs soit au niveau d'un état, des états de service et pas que des états de répression.
L'année 2020 a été la plus meurtrière pour les civils au Sahel, avec près de 2400 victimes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Selon les données du site Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED en anglais, les violences ont entraîné le déplacement forcé de plus de 2 millions de personnes dans la région, dont plus de la moitié au Burkina Faso. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, un sommet du G5 Sahel se tient à N'Djamena avec la participation de la France engagée depuis 8 ans aux côtés des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme. Malgré cela, les groupes djihadistes continuent de sévir dans la zone, les populations civiles payant le plus lourd tribut. Des milliers de personnes ont perdu la vie et 2 millions ont été déplacés. Au-delà de l'aspect militaire, le sommet de N'Djamena cherche aussi des solutions politiques et diplomatiques à la crise au Sahel. Nous en discuterons avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Bénin, la CENA, la Commission électorale nationale autonome, a déclaré vendredi avoir retenu seulement 3 dossiers de candidature à la présidentielle d'avril, ceux du président Patrice Talon, de l'ancien ministre Alassane Soumanou et d'une figure dissidente de l'opposition, Corentin Koué. Le dossier d'une ancienne ministre de Yahi Bouni et actuelle conseillère du président togolais Forn Yassingbé a été rejeté. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, sera face à 2 adversaires le 11 avril prochain. Seuls 3 dossiers de candidature sur les 20 déposés ont été retenus par la commission électorale. Les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, a expliqué la commission électorale, citant pour les récaler des problèmes liés au nombre de parrainages d'élus. L'opposition dénonce un scrutin verrouillé par le président sortant. Au cours d'une conférence de presse, Rekia Madoukou a déclaré qu'elle ne se laissera pas fait et menace publiée des captures d'écran d'échanges qu'elle a eues avec des députés et maires qui ont avoué que leurs fiches de parrainage leur ont été saisies.
Quand la mythomanie devient un mode de gouvernance, on doit la dénoncer. Le président sortant ne veut pas de la compétition, hélas. C'est tellement plus simple. Pourquoi autant de contorsions? Pourquoi autant de manipulations pour une simple élection?
L'honorable Afobo de l'Union progressiste, un bloc de partis proche de la mouvance présidentielle, enfonce le clou dans une vidéo qui fait depuis vendredi le tour des réseaux sociaux au Bénin. Il y dénonce une forme de dictature. Selon lui, les responsables de la plateforme politique ne lui ont pas laissé les mains libres pour choisir à qui donner son parrainage pour la course à la présidence.
Si effectivement qu'on avait les mains libres, moi, mon parrainage porte sur le nom
nom de Rekia Mandegou. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de nos collègues. Ils ont la volonté à faire ça, seulement qu'ils ont peur.
Les responsables du parti ne sont pas de cet avis. Ils disent avoir fait la démarche nécessaire vers les partis d'opposition, mais n'ont pas eu la réponse escomptée. Pour le député Gilda Sagonkan, membre de l'Union progressiste, la candidate Rekia Mandegou a fait économie de vérité.
Nous savons que aucun de nos camarades n'a été accroché par Rekia et par un potentiel. Donc, elle n'a pas dit la vérité. Par contre, nous avons fait la démarche contraire vers leur président, Eric Aounouti, qui a dit qu'il n'avait pas besoin de parrainage.
Mais Rekia Mandegou ne démord pas. Elle pense que le chef de l'État se doit d'offrir un tableau politique plus intéressant que celui des législatives où les forces de l'opposition ont été écartées.
J'ai juste envie de construire un Bénin où l'équité, la justice sociale, la transformation structurelle de l'économie permet à ses filles et fils d'être autonomes, de réfléchir par eux-mêmes, de raisonner par eux-mêmes, de prendre leur destin en main.
Les candidats dont les dossiers ont été rejetés peuvent déposer un recours à la Cour constitutionnelle qui publiera la liste définitive des candidats à l'élection dans une dizaine de jours. De Cotonou, Ginette Fladandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden veut rompre avec les politiques d'immigration restrictives de l'administration Trump. Il veut accueillir plus de réfugiés aux États-Unis, suscitant l'espoir de certaines personnes les plus désespérées au monde. Mais les experts prédisent qu'il faudra du temps pour rétablir le programme américain de réinstallation des réfugiés. Aline Barros de VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Dans une agence de voyage à Nairobi au Kenya, Abderiza Nou Ibrahim a un œil sur l'Amérique. Il regarde à la télévision le discours d'acceptation de Joe Biden.
Je suis honoré par la confiance que vous avez placée en moi.
Originaire de Somalie, Ibrahim a fui Mogadiscio, déchiré par la guerre, en 2004. Il est devenu un réfugié. Sa famille et lui ont été autorisés à se réinstaller aux États-Unis au début de 2017. Arrivé à la Maison Blanche cette même année, Donald Trump a signé des décrets interdisant l'entrée aux États-Unis à des personnes venant de plusieurs pays à majorité musulmane, y compris la Somalie. Abdirazik Nour Ibrahim, réfugié somalien.
J'avais passé toutes les interviews, la santé et tout. Puis l'ancien président a introduit une interdiction de voyager. J'attends depuis 4 ans. Cela fait plus de 10 ans que j'attends dans l'espoir d'être réinstallé.
Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, Ibrahim a bon espoir pour la levée des restrictions de voyage et l'augmentation des admissions de réfugiés aux États-Unis. À partir du mois d'octobre, les États-Unis pourront accueillir jusqu'à 125 000 réfugiés par an, contre 15 000 à la fin de l'administration Trump. Le président Joe Biden.
Il faudra du temps pour reconstruire ce qui a été si gravement endommagé.
Et la pandémie du COVID-19 est venue s'ajouter aux nombreux défis. Christopher Boyan est chargé de communication au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Il y aura beaucoup de défis, y compris le niveau du financement, la dotation personnelle pour relancer ces processus. Mais sans doute, l'un des plus grands défis pour ramener ce programme au niveau robuste que l'administration américaine dit vouloir atteindre, c'est la pandémie de COVID.
Les organisations d'aide à la réinstallation basées aux États-Unis espèrent se remettre à l'œuvre. Alicia Wren est directrice de l'une des 9 organisations à but non lucratif qui aident la réinstallation des réfugiés aux États-Unis.
Nous sommes vraiment impatients de recruter du personnel. Nous prévoyons même avec certains de nos partenaires d'ouvrir de nouveaux bureaux.
Mais les partisans de Trump ont des doutes. Pour eux, un contrôle plus rigoureux aide à garantir que ces réfugiés réinstallés ne présente aucun danger pour les États-Unis. Les défenseurs de droits des réfugiés estiment que les problèmes de sécurité sont exagérés. Krish Omara Vingaraja est patron de l'ONG Lutheran Immigration and Refugee Service.
Il y a cette assertion qui n'est pas du tout vraie, selon laquelle les réfugiés sont potentiellement des criminels ou des terroristes. La vérité est qu'un réfugié est beaucoup moins susceptible de commettre un quelconque crime qu'un Américain né dans ce pays.
À Nairobi, le réfugié somalien Abdirazak Nou Ibrahim espère que son cauchemar prendra fin un jour et qu'il pourra enfin réaliser le rêve américain.
Le Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.